Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Auditrices, auditeurs, vous qui nous suivez sur 22 stations de radio à travers le Mali, bonsoir. La femme malienne, c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui. Elle qui sera célébrée le 8 mars, c'est-à-dire dans 4 jours. Occasion pour nous de nous poser quelques questions comme par exemple, la femme malienne, que vit-elle comme condition? Quel rôle joue-t-elle? Et quel devrait être réellement son rôle dans la société? Est-elle suffisamment impliquée dans la gestion des affaires publiques, quelle peut être sa place dans le processus de négociation en vue de l'instauration d'une paix durable? Ces questions, beaucoup de Maliennes et de Maliens se les posent certainement. Et c'est à ces questions que nous allons demander à nos invités de répondre. Nos invités qui sont Madame Dambélé Oulimatousso, elle est la présidente de la Fédération nationale des collectivités d'organisation féminine FENACOF. Madame Tungara Sophie Souko, elle est directrice nationale adjointe de la promotion de la femme. Et Jean Fomba, il est lui de l'ONU Femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue.
Studio Tamani.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, tous les ans, la femme est célébrée à travers le monde à une date précise, le 8 mars. Un événement qui n'est jamais passé inaperçu ici au Mali, voilà déjà 21 ans. Le 8 mars, ce sont des festivités, chants, danses, mais c'est aussi en principe le jour où les femmes doivent le plus réfléchir au chemin qu'elles ont parcouru. Alors, au-delà du côté festif, le 8 mars est-il véritablement un jour de prise de conscience de la condition féminine au Mali? Nous allons poser la question d'abord à Madame Dambélé Oulimatousso, elle qui est la présidente de la FENACOF.
Merci beaucoup. Donc, je dis bonsoir à tous les spectateurs et les auditeurs, excusez-moi. Et puis, bonsoir au studio Tamani. Qui a toujours voulu quand même associer, n'est-ce pas, les femmes à tous les débats que vous organisez ici. Donc, vous êtes en train de dire, par rapport à la Journée internationale de la femme, donc c'est évidemment une occasion de dresser le bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement et puis de l'émergence, n'est-ce pas, de la femme. Et également, le 8 mars fait appel à des changements, et également de célébrer les actes de courage aussi, les actes de courage et puis de détermination accomplis par des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et dans leur communauté et pour la promotion tout court de leur concert. Donc le 8 mars, en fait, c'est destiné à cela.
Alors, Madame Tungara Sophie Souko, vous qui êtes donc la directrice nationale adjointe de la promotion de la femme, dites-nous, le 8 mars, la fête des femmes sert-il réellement à quelque chose en matière des droits de la femme, de la promotion de la femme en tant que telle?
Ok, merci bien. Bonsoir à tout le monde. Je dirais d'abord que si on considère même l'origine du 8 mars, elle remonte des luttes ouvrières et de nombreuses manifestations des femmes réclamant le droit de vote, les meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est depuis le début du XXe siècle. Le 8 mars même a été mis sur pied dans les années 1975 qu'on a appelé Année internationale de la femme. Donc, depuis cela, les pays sont en train de fêter le 8 mars, mais le Mali a commencé en 1994. C'est pour dire que la Journée internationale de la femme, c'est une opportunité pour permettre de réfléchir sur la situation de la femme. Sur la situation de la femme, c'est l'occasion aussi de dresser le bilan des progrès réalisés dans tous les domaines, d'identifier les difficultés et les difficultés que les femmes doivent surmonter pour une meilleure vie. Si on fait une relation entre les droits des femmes, c'est justement cela. Le 8 mars, c'est pour l'amélioration du statut de la femme et dans tous les domaines.
Alors dites-nous, madame, voit-on le 8 mars de la même manière ici à Bamako, dans les grandes villes, que dans les localités les plus éloignées, par exemple, du pays?
Bon,
là les femmes ont-elles la même perception de cette date, de l'importance de cette date?
Là où nous sommes, peut-être la compréhension au milieu urbain et dans les milieux ruraux, il peut y avoir des différences. Mais tout compte fait, toutes les femmes, même dans les zones rurales, savent que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Maintenant, les enjeux, tout ce qui s'ensuivent là, il peut y avoir une différence de perception, de conception. Sinon, là où nous sommes, l'amélioration, disons, l'amélioration de la perception du 8 mars, même dans les milieux ruraux là, ça peut être timide, hein, mais toutes les femmes maintenant savent que le 8 mars, d'ailleurs c'est même plus fêté dans les zones rurales qu'en milieu urbain.
Oui. Nous allons nous tourner du côté des enfants Bao, qui est donc de l'ONU Sida. Alors, l'ONU Femmes, disons, je me ressaisis. Oui. Les enfants Bao est donc de l'ONU Femmes. Et alors, pour vous, M. Fomba, la journée du 8 mars, la journée de la femme, c'est un événement important.
Oui, la journée du 8 mars est un événement très important pour le système des Nations Unies. Parce que tout comme plusieurs, il y a plus d'une centaine de journées internationales. Et la première journée internationale dédiée par les Nations Unies se réfère à la journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre. Et depuis lors, il y a plusieurs autres journées, près de 110 journées internationales consacrées et fêtées différemment. C'est pourquoi les Nations Unies donne beaucoup d'importance à la célébration de la journée du 8 mars qui est dédiée à la femme de façon globale. Et à cette occasion, il permet aux différents responsables du système des Nations Unies, tels que le secrétaire général, tels que la directrice exécutive de l'ONU Femmes, d'adresser un plaidoyer fort et apprécié sur la condition de la femme, retraçant tous les progrès possibles réalisés pendant ce laps de temps, mais aussi d'inviter les gouvernants à porter plus d'attention sur les conditions de la femme en se référant sur 4 points clés. Le premier point qui tient beaucoup à cœur le système des Nations Unies, c'est la promotion des textes et des mesures juridiques favorables pour accompagner tous les acquis et consolider les acquis de la femme. En second lieu, en termes d'information et de sensibilisation pour conscientiser l'opinion nationale et l'opinion internationale sur les conditions que connaissent les femmes depuis que le monde est monde. Et en troisième ressort, d'appuyer aussi pour que les gens puissent changer de comportement et regarder la femme, pas comme la femme seulement, mais la femme en tant que compagnon de l'homme, complémentaire de l'homme, pas que à la femme en quelque sorte, mais de chacun de nous doit regarder intérieurement ce qui se passe aujourd'hui à la femme, enlever cette femme et pensez-y que c'est votre fille ou c'est votre sœur. Quelle pourrait être votre réaction par rapport à cela? Et c'est pour cela que les Nations Unies accordent la quatrième thématique d'intervention, c'est un appui direct aux couches défavorisées. Et je pense que c'est à l'occasion du 8 mars que cet assemblage, tout cet assemblage est fait et revu et passé en revue par rapport à cela. Oui, c'est une fête à dimension internationale. Oui, c'est un moment de recueillement aussi. C'est un moment de commémoration et surtout de réflexion par rapport à ce qui se passe.
Alors, on a beaucoup parlé de la femme ces dernières décennies au Mali. On en parle toujours, d'ailleurs. Alors, dites-nous à présent, est-ce qu'on a véritablement enregistré un progrès, en tout cas un progrès qu'on peut qualifier de notoire en matière de respect des droits de la femme ici au Mali? La question, en premier lieu, à Mme Dembélé Oulema Tousso.
Merci beaucoup. Donc, je dirais que des progrès sont certes consignés. Parce que si on parle de progrès, n'est-ce pas, par rapport à la femme, il faut revisiter pratiquement tous les secteurs d'activité dans lesquels évolue la femme et pratiquement voir tous les domaines du développement. dans le domaine du développement, je vois l'éducation, la santé, je vois la gouvernance, c'est-à-dire la participation de la femme à la vie publique, je vois d'autres questions également comme l'économie, comme l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Donc il faut revisiter tout ça là. Donc vous allez convenir avec moi que dans le domaine de l'éducation, il y a quand même des progrès, mais des disparités persistent toujours, parce qu'on peut dire que sur 10 femmes, n'est-ce pas, maliennes, seules 3 sont instruites également, et 2 sur 10 sont alphabétisées. Ça veut dire déjà qu'il y a des problèmes, mais il y a des progrès tout de même, parce que vous allez également convenir avec moi qu'il y a plus de femmes aujourd'hui instruites, n'est-ce pas, sur le terrain. En matière de santé, la santé de la reproduction, quand même à de sérieux problèmes par rapport à la mère et à l'enfant, le taux de mortalité qu'on sort. Maintenant, et par rapport aux d'autres questions, gouvernance, participation, vous connaissez quand même les chiffres, elles sont effarantes. Mais on estime quand même qu'on peut toujours considérer que, se consoler qu'il y a des progrès significatifs, mais quand même qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, à faire, parce qu'il y a toujours des inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes.
Madame Tungara Sophie Souko, vous qui êtes la directrice nationale adjointe de la promotion de la femme, vous reconnaissez qu'il y a eu de progrès, mais il y a aussi du boulot.
Oui.
Allez-y.
Il y a eu des progrès, mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire.
Notamment dans quel domaine?
Peut-être si on essaie de voir un peu le progrès, peut-être dans la scolarisation des filles, il y a eu des progrès. Concernant la santé de la femme et de l'enfant, il y a des progrès. Peut-être. Sinon, il y a beaucoup à faire, par exemple, dans le cadre des violences faites aux femmes. Dans le cadre des violences faites aux femmes, il y a des progrès, il y a des problèmes. Dans le cadre. De l'autonomisation de la femme, de l'éducation de la femme, il y a des problèmes. Mm-hmm. Parce qu'il y a peu de femmes alphabétisées par rapport à l'homme. Concernant les violences, il y a beaucoup à faire. Mais on peut noter la volonté politique, parce qu'il y a tout un arsenal juridique.
Voilà, dites madame, les violences faites aux femmes, il y en a plus en campagne que dans les villes, non?
Les violences, c'est à tous les niveaux. Que ce soit en campagne, dans les villes, les violences persistent. Peut-être les cas de violences peut-être ne sont pas les mêmes dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Sinon, les violences sont partout. C'est dans les campagnes comme dans les villes.
Sanfomba, en quelques mots, avant donc la pause, vous aussi, vous pensez que le Mali a enregistré des progrès importants en matière de respect des droits de la femme?
Oui, si on se réfère d'abord par rapport au cadre juridique qui permet l'exercice des droits civiques, économiques et sociaux des hommes et des femmes, ça veut dire que vous allez d'abord dans les lois. Donc la source principale qui accorde les prérogatives à toute couche, c'est d'abord le droit. Quand vous regardez d'abord la constitution de 1992, il y a quand même un déphasage avec les anciennes constitutions que le Mali a connues, plutôt par rapport à la constitution de 1974 que je connais le mieux. Après cela, il y a d'autres codes qui sont venus, qui ont eu des impacts sur la femme. Quand vous regardez le code pénal, la loi 080 du 20 août 2001, c'est des lois qui ont beaucoup changé par rapport à cela. Et même la loi sur le commerce. Parce qu'avant, à un moment donné, c'était difficile pour une femme d'exercer le commerce sans l'aval de son mari. Mais la nouvelle loi qui est venue a modifié cela. Mais il y a aussi beaucoup d'autres lois à faire. Bon, ça c'est de façon nationale.
Zanfomba, vous aurez la parole après une courte pause que nous allons observer.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, comme promis, Zanfoma de l'ONU-SIDA, excusez alors, hein, c'est de l'ONU-FAM alors, Zanfoma de l'ONU-SIDA, vous étiez en train de nous parler justement des progrès réalisés en matière de respect des droits de l'homme, vous étiez sur les aspects peut-être judiciaires, alors on va vous demander donc de continuer.
Oui, donc je disais que par rapport à la loi sur le commerce qui a été instaurée en 92, le 27 août 1992, a donné des modifications et la femme a maintenant le plein pouvoir d'exercer une activité génératrice de revenus ou une activité commerciale sans l'aval de son mari et que c'est une très bonne chose. Et aussi,
excusez, c'est une loi qui est là, mais est-ce qu'elle est véritablement appliquée? Si oui, est-ce qu'elle est appliquée partout, aussi bien en ville que dans les, en milieu rural, dites?
Ok. Bon, je connais beaucoup plus, et même si présentement j'évolue dans la grande ville à Bamako, mais je connais le milieu rural. Mm-hmm. Et nos mamans, par exemple, qui vont faire les marchés forains, et généralement, quand même, depuis le Mali est Mali, quand même, c'est des choses qui sont permises dans nos milieux, même rural, même les plus conservateurs. Et donc, cela a un impact, effectivement. Mais quand vous regardez aussi, même quand vous partez dans les foires, qui se tiennent pratiquement de façon hebdomadaire dans presque toutes les localités maliennes. Vous verrez ces femmes braves, qui bravent le temps, les intempéries, pour aller à la recherche de subsistance pour la famille. Et c'est là tous les niveaux aujourd'hui. Bon, souvent, il peut y avoir des contraintes dans l'application, parce que l'individu en soi peut interpréter beaucoup de choses par rapport à ça. Mais le fait même de prendre une loi qui allège la femme dans ce sens-là, est symbolique et porteur par rapport à cela.
Alors, une loi de ce genre, quand vous la prenez, elle a besoin certainement d'être expliquée, n'est-ce pas, Madame Damili?
Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, quand même, le problème afférent, n'est-ce pas, au commerce n'est plus un problème pour la Malienne. Parce que vous savez que nos marchés, n'est-ce pas, vivent avec les femmes. Et que c'est la femme, n'est-ce pas, qui est entre le marché et la famille. N'est-ce pas, pour faire le repas pour la famille. Et aussi, je dirais que ces grandes commerçantes qui sont entre Dubaï et Bamako, aussi, vous les voyez. En tout cas, les hommes maliens, je ne pense pas, je n'ai jamais entendu qu'un homme quand même a causé du tort à sa femme parce qu'elle fait du commerce. C'est une entente mutuelle, une entente consensuelle, n'est-ce pas, dans le couple, quoi. Voilà.
Madame Tungara,
oui.
Vous avez une réaction?
Bon, pratiquement non. Tout ce que les prédécesseurs viennent de dire, c'est de la réalité. Mm-hmm. Même s'il y a problème, c'est des problèmes
isolés.
Insignifiants.
Mm-hmm. Isolés.
Peut-être, comme Jean l'a dit, hein, chaque personne, chaque individu a sa perception sur une chose. Donc, si ce n'est pas ça, c'est à part cela, hein, il n'y a pas de problème concernant le commerce des femmes au Mali.
Alors, on va à présent parler du rapport femme et vie politique. Femme, vie politique, dites-nous, le rapport a-t-il vraiment changé ces dernières décennies ici au Mali?
Femme, vie politique.
La femme et la vie politique, l'implication donc de la femme dans la vie politique.
Donc, en fait, c'est un grand goulot d'étranglement. Quand même, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la participation de la femme à la vie publique, beaucoup de problèmes se posent. Et vous voyez que cette évolution va en dents de scie. Donc de l'indépendance à nos jours, si vous voyez quand même le nombre de représentations politiques au niveau de l'Assemblée nationale, le nombre de représentations dans les différents gouvernements successifs, dans les conseils communaux, le nombre de maires, le nombre de femmes qui siègent au niveau des grandes institutions, vous voyez que vraiment il y a problème. Quoi. Il y a problème, on assiste vraiment à une insuffisance, n'est-ce pas, de la présence des femmes dans ces institutions.
Madame Damili, le Mali, quand même, depuis l'avènement de l'indépendance, c'est un pays qui a connu assez de femmes ministres. Mmh. Il n'y en a pas eu autant dans des pays même plus développés.
Vous pensez, hein? En tout cas, nous, on est restés sur nos fins, notre fin par rapport à cette situation. Nous savons que, par exemple, et si on prend, par exemple, depuis en 1959, c'était une femme sur 80 députés, soit 1,25%. La première République de 60 à 68, deux femmes sur 80 députés. Et là toujours sous ce régime de 68 à 91. Vous savez, c'est en 91 qu'on a assisté quand même à l'avènement de la démocratie dans notre pays. En 74 déjà, il y avait 5 sur 96 seulement. L'année record a été en 1997 avec 18 femmes sur 147 députés. Donc, soit 12,24. À part, ce n'est pas cette année, nous sommes en train de rétrograder. Aujourd'hui, l'année 2007, on était à 15 femmes. Aujourd'hui, cette année, la législature de 2013, on est à 14 femmes, soit 9,50%. Et avec, n'est-ce pas, le décès d'une députée, on est aujourd'hui à 13 femmes.
Mais cela reflète quoi? Que les femmes ne sont pas suffisamment actives?
Nous sommes, et les gens voient comment les femmes sont en train de se débattre sur le terrain. Les femmes sont quand même en avant-garde pratiquement de toutes les questions. En témoigne, n'est-ce pas, la gestion de la crise. Donc, nous sommes partout, nous sommes dans tous ces secteurs d'activité. Mais c'est un problème socioculturel. Socioculturel qui influence même la structure de l'État. Parce que l'État est un pays laïque, est un pays souverain, est un pays législateur. Voilà, l'État est souverain, législateur, mais malheureusement, hein, l'État quand même marche, n'est-ce pas, avec des hommes, n'est-ce pas, qui ont ce sentiment, ce pressentiment.
Alors, voilà. Maintenant, une question qui s'adresse à Mme Tungara Sophie Souko, elle qui est la directrice nationale adjointe de la promotion de la femme. Les femmes ministres, dites-nous, est-ce juste un symbole ou un acte véritablement susceptible de contribuer à la promotion de la femme à travers le pays?
Les femmes, la nomination des femmes au poste de ministre.
Oui.
Mais ça ne peut être qu'un acte qui contribue à la promotion de la femme. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Toute discussion là, c'est pour ça. Il faut les femmes au poste de décision. Et mais si les femmes ne sont pas là-bas, regarde l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale. Les femmes ne sont pas en majorité. Donc, très souvent, il y a des problèmes concernant les problèmes de femmes à l'Assemblée. Parce que les femmes ne sont pas en majorité. Et cette minorité aussi qui est là, bon, mais avec quel que soit leur coup de force, ils peuvent pas combler le vide qui est là. Donc, vraiment, quand les femmes sont au poste de responsabilité, c'est ce qui contribue favorablement à la promotion de la femme.
Quand on confie donc des postes de haute responsabilité à des femmes, je crois que ça ne peut que plaire à Unifam. Jean Fumba, vous en réagissez?
Oui, bon, en fait, vous savez, Unifam, qui est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomie de la femme, se bat par rapport à ça, et son domaine d'intervention premier, c'est le domaine du leadership et la participation politique des femmes. Et à cela, je suis le chargé du programme de ce volet électoral. Et j'avoue que, effectivement, ça donne boum au cœur quand on vous voit. Et souvent, vous savez, aujourd'hui, quand vous faites un classement dans le monde de par le taux de femmes au Parlement, le Mali est 121e ex-aequo. Donc ça ne donne pas beaucoup de boum au cœur avec 9,5%, comme l'a dit Mme Oulematou. Et le premier pays au monde, ce n'est ni la France, ni les États-Unis. Le premier pays au monde, c'est le Rwanda. Et le Sénégal, qui est tout près de nous, est 7e mondial et 3e africain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. La France vient en 68e position dans ce classement qui est du 1er janvier 2014. Il y a cela, mais ce que Unifam a initié encore cette année par rapport à la campagne qu'on a dit « He for She », des hommes éveillés pour des femmes, mais des hommes qui appuient l'accompagnement des femmes, parce qu'on veut des gens comme ça. Et on veut aussi des journalismes « He for She » pour accompagner les femmes. Parce que la femme, comme je l'avais dit au départ, l'homme et la femme, ils sont deux complémentaires. C'est les deux ailes des mêmes oiseaux. Donc quand l'aile droite bat, ça veut dire que l'aile gauche va ressentir l'envol de l'oiseau qui est là. Donc cela veut dire quoi? L'harmonie même dans un pays ne peut se comprendre que quand les hommes et les femmes participent de la même façon. Et souvent je donne un exemple terre à terre qui contrôle par rapport à cela, qui corrobore beaucoup chez nous, dans les milieux agricoles et ruraux dont je suis issu. Quand les hommes vont au champ le matin, il faut que il mange quelque chose à 6h du matin pour aller. Mais pour manger cette chose-là à 6h du matin, il faut que la femme soit debout à 4h du matin. Et la femme, quand vous prenez son temps de travail, vous voyez qu'elle fournit beaucoup d'efforts. Et que si ces efforts étaient comptabilisés, on verra que la femme est pratiquement le support même de la société en termes d'apport. Pas pécuniaire, mais en termes d'apport physique. Mais si on évaluait le fait de préparer et amener le repas au champ, le fait d'entretenir les enfants, les personnes âgées à la maison, ou accompagner même quelqu'un à l'hôpital pendant 48 heures, vous voyez donc déjà qu'il y avait beaucoup de choses. Mais c'est la femme qui supporte cela dans notre milieu. Et c'est ça, et la façon de socialisation dont on a le Mali a été conçu.
Alors, sans vouloir vous interrompre, je voudrais juste faire remarquer qu'une femme vient d'être nommée présidente de la Cour constitutionnelle. C'est une première, non, Madame Dembélé?
Je ne suis...
Oui.
D'accord.
Je suis d'accord que c'est la première, une première fois au Mali que une femme accède au poste de présidente de la Cour constitutionnelle. Et ça nous donne chaud au cœur parce qu'aujourd'hui, sur les 8 institutions de la République malienne, il n'y avait pas de femmes présidentes dignes des comptes. C'était quelque chose qui n'est pas... Bon, en tout cas, ce n'est pas tellement bien visible. Mais le fait que cela revient, et aujourd'hui, c'est le lieu aussi de féliciter les plus hautes autorités de la République parce que cette nomination, elle est volontaire et choisie par des présidents d'institutions. Le président de la République fait son choix, le président de l'Assemblée nationale donne ses trois choix, et le président du Haut Conseil aussi donne ses trois choix. Mais les deux femmes qui sont venues ont été sur une même liste de propositions. Ça veut dire que c'est déjà une volonté politique qui est là et que c'est le milieu de beaucoup l'apprécier. Maintenant, la cause du chute ou de l'évolution en dents de scie de la représentation des femmes est due à beaucoup de facteurs qu'on veut comprendre. Je vous donne juste un chiffre. En 2002, pendant les législatives de 2002, il y avait 1120 hommes candidats au poste de député contre 118 femmes. Déjà, l'écart même déjà est trop grand depuis au départ. Donc vous voyez déjà que, ajoutez à cela les conditions. Et souvent je dis, c'est comme les courses de chevaux. Quand vous mettez le plus grand qui est bon là, il est au recul, l'autre là est devant. C'est pour amener les mêmes compétiteurs à égalité de chance. C'est pour cela aussi, aujourd'hui, on doit chercher à aller, les hommes et les femmes, comme les hommes sont devant trop, devant les femmes, il faut donner des conditions. C'est pour cela qu'on cherche des lois, des mesures spécifiques à des moments donnés pour pouvoir atteindre cela. Et cette année, il y avait 985 hommes qui cherchaient à être députés contre 156. Donc, vous voyez déjà, donc au départ, s'il n'y a pas assez de candidates, les candidatures ne sont même pas équilibrées à un départ, donc on ne peut pas avoir un équilibre au niveau des résultats. Que cela aujourd'hui est criable. Et ajouter à cela aussi les conditions dans lesquelles beaucoup se passe. Et les législatives de 2013, les femmes ont voté plus que les hommes parce qu'il y a eu 51,3% des femmes qui ont voté au premier tour contre 53% des femmes qui ont voté au second tour. Mais quand vous regardez aussi au niveau des agents qui étaient dans les bureaux de vote aussi, il y avait un équilibre qui était là, c'était 48-40, 60 hommes-femmes, et c'était bon. Mais les présidents des bureaux de vote, c'était peu de femmes et pour les hommes. Mais là, il faut toujours donner des explications, parce qu'une femme est plus encline à aller à voter ou à échanger avec, si elle trouve des femmes dans un milieu, elle se sent plus à l'aise. Mais quand elle vient, elle ne trouve que des hommes, peut avoir des blocages, sauf si c'est des hommes qui donnent des hiérarchies, qui sont capables de l'expliquer, de la et de l'accompagner par rapport à cela.
Alors, dans quelques dizaines de secondes, il sera 18h45, nous allons donc observer une courte pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Je vous rappelle que nous avons dans ce studio trois invités pour parler de la femme malienne. Jean Fomba, il est de l'ONU Femmes. Madame Dembélé Oulimatsousso, présidente de la Fédération malienne, Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines FENACOF. Et Madame Tungara Sophie Souko, directrice nationale adjointe de la promotion de la femme. Nous avons parlé de femmes et politique. À présent, la situation de la femme au foyer, est-ce qu'elle s'est améliorée? Je pose la question à Madame Tungara Sophie Souko.
Merci bien. La situation de la femme au foyer. Cette situation, c'est relatif. L'amélioration de la situation de la femme au foyer, c'est relatif. Peut-être, comme on l'a dit, il y a certaines lois comme le commerce qui libère la femme d'une certaine condition. La femme fait le commerce sans contrainte. La femme joue son rôle de femme dans le foyer, certains rôles sans contrainte, mais il y a toujours le poids de la tradition qui est là, qui ne cesse de peser sur la femme. Donc, cette situation, c'est ce qui n'est pas beaucoup amélioré dans le cadre de la position de la femme dans le foyer. La contrainte du poids socio-culturel est là. Il y a aussi les violences domestiques. Les violences domestiques pèsent beaucoup sur les femmes dans le foyer. Et suivant, tenant compte de nos cultures, les femmes ne sont pas encore à mesure de dévoiler toutes les violences qui sont faites à leur endroit. Donc, elles sont blessées intérieurement. Elles ne peuvent pas avouer. Il y a certains types de violences qu'on ne peut pas même raconter. Donc, vraiment, il y a ce poids socio-culturel qui pèse encore sur la femme dans le foyer.
Okay. À présent, nous allons parler de la journée proprement dite, la journée du 8 mars.
Oui.
Alors, cette journée, qu'est-ce qu'elle prévoit? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme activité phare au programme?
La journée du 8 mars, il y a la journée phare d'abord, qui est le 8 mars même, qui est c'est le dimanche. Donc, les manifestations se passent au Palais de la Culture, Amadou Ampateba, à partir de 9h. Donc, à l'actif là-bas, il y a les plaidoyers, les sensibilisations, les montages poétiques qui montrent le rôle de la femme depuis l'Antiquité, si je veux dire, jusqu'à maintenant, et qui montrent qui va nous dire quelle sorte de femme le Mali a besoin maintenant pour notre promotion. Il y a aussi un film qui Aspiration de femme, une portion va être projetée, un film qui montre la relation entre l'insécurité et l'autonomisation de la femme. Il y a aussi des hommages à nos pionnières, les pionnières de l'indépendance, nos mamans qui se sont battues aux côtés des pères de l'indépendance pour l'indépendance de notre pays. On va rendre hommage à ces pionnières-là. Et tout ça là va être sous la haute présidence du président de la République. Après, même avant le 8 mars, depuis le 1er mars, on est en train de faire des activités. Même aujourd'hui, il y avait une activité au Centre international de conférence concernant
Femmes
VIH-SIDA. Mm. Donc, demain, il y aura une exposition photo au Musée national concernant les coiffures, comment la femme s'habillait de 1960, 70, 90. Donc, il y a plein d'activités qui vont se passer pendant ce 8 mars. Après le 8 mars, ça continue. Il y a des conférences débats sur le thème même de la journée. Il y a des conférences débats, donc il y a d'autres activités prévues après le 8 mars.
Mais justement, le thème de la journée, le thème national, c'est croissance économique et autonomisation des femmes, engagement inclusif pour un Mali sécurisé, stable et émergent.
Oui.
Alors, vous pensez que c'est un choix qui convient?
Oui, pour nous, là où nous sommes là, c'est un choix qui convient. C'est un choix qui convient parce que là où le Mali est, on est entre insécurité et paix. Nous, on veut la paix maintenant. Donc, l'autonomisation de la femme est liée à cette paix-là. Tant qu'il y a l'insécurité, on ne peut pas faire d'activité génératrice de revenus. On ne peut pas le petit commerce là, ça ne peut pas se faire. Donc, même mieux entretenir sa famille, ça ne peut pas se faire dans l'insécurité. Donc, vraiment, on a dit l'engagement inclusif, c'est l'engagement de tout le monde pour qu'il y ait cette paix et que jaillisse l'autonomie de la femme.
Et Madame Dambélé ou les Mazousso, oui?
Oui, en fait, je suis en phase avec la directrice parce que les femmes jouent quand même un rôle prépondérant dans le socio-économique de premier plan. Donc, plus de 50%, n'est-ce pas, des femmes. Elles sont à 80% dans la production alimentaire. Elles sont à 70% dans l'alimentation. Elles sont à 58% dans le commerce et le secteur informel. Donc, laisser en marge quand même cette masse critique, n'est-ce pas, de la population, c'est vraiment aller dans l'incertitude, quoi. Donc, c'est pourquoi la prise en charge des femmes et des jeunes quand même est très essentiel si vraiment un pays veut s'en sortir. Ce n'est pas des questions, des considérations socioculturelles qui doivent faire en sorte qu'un État doit traîner, n'est-ce pas, le pied par rapport à la promotion des femmes et des jeunes. C'est essentiel, c'est obligatoire. Donc il faut que notre pays s'engage, n'est-ce pas, en cela, pour la participation et la représentation positive, n'est-ce pas, des femmes dans les instances de décision. C'est à ce prix-là qu'on pourra booster notre développement durable.
Zanfomba de ONIFAM.
Oui. Bon, moi, je trouve que le thème, il est plus que révélateur. Vous savez, le monde s'était engagé en 2000 pour pouvoir éradiquer 8 objectifs qu'on avait définis comme les OMD. Aujourd'hui, pratiquement, on est dans la dernière année de mise en œuvre des OMD qui n'ont pas pu être réalisés. Parce que les 7 OMD, après analyse, tiennent tous de l'OMD 3. Tant que l'autonomisation de la femme n'est pas réalisée, les autres vont dépendre de cela. Et en 2011, le Mali avait atteint pratiquement la réalisation de l'accès à l'eau potable, qui est l'un des OMD aussi. Le Mali avait été pratiquement à la porte même de l'atteinte de cette OMD, de réaliser ça à 100%. Les études avaient confirmé cela. Mais malheureusement, avec la crise, comme vous le savez aujourd'hui, on a régressé. Les indicateurs de l'accès à l'eau potable ont régressé beaucoup parce que aujourd'hui, quand vous partez dans beaucoup de zones, les installations qui donnaient l'eau potable ont été détruites. Et aussi, les hommes en pâtissent aujourd'hui. L'accès à l'eau potable n'est plus une réalité, en tout cas, ce n'est plus à 100%. On a régressé, on avait atteint les 80%, mais on doit être aujourd'hui aux environs de 60-65%. Ça veut dire encore qu'il y a à refaire. Mais les gens ne comprennent pas beaucoup cela parce que quand vous êtes dans la grande ville, sortez un tout petit peu de Bamako, allez au périphérique de Bamako, vous allez comprendre la pénurie d'eau qui est là. Les gens, il y en a des gens qui payent les barriques d'eau à 1000 francs, 1250 francs oui, dans les périphériques de Bamako. Cela est déjà beaucoup trop cher pour le Malien moyen. Donc voilà, et c'est pour cela que je pense que le thème là, normalement, on doit en faire un cheval de bataille pour arriver à l'autonomisation de la femme qui peut déterminer les autres indicateurs par rapport au développement.
Le dialogue inclusif intermalien, disons, Madame Dambélé en parlait tout de suite, disons alors, le dialogue inclusif intermalien, nous sommes sûrs que les femmes s'y intéressent de très près, elles qui payent le plus souvent le plus lourd tribut lors des conflits. Dites-nous, les femmes ont-elles leur mot à dire dans ces processus? Je pose la question à Madame Dambélé Oulimatousso.
Bon, moi je pense que les femmes ont un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans le processus de dialogue. Un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans la réconciliation nationale, au regard même de leur rôle traditionnel. Leur rôle traditionnel, la femme à la maison, on dit que la femme, si elle va chez son mari, on dit que elle doit être fil et aiguille, n'est-ce pas? Elle doit coudre, n'est-ce pas, les liens, n'est-ce pas, familiaux. Maintenant, de même, la femme doit coudre, n'est-ce pas, le tissu déchiré, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la crise a ébranlé tous nos fondements. Qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient sociaux. Donc, la femme doit quand même faire prévaloir ce rôle traditionnel, le transposer, n'est-ce pas, au fin vraiment d'aider, n'est-ce pas, à la consolidation de la paix et à la réconciliation nationale. Dans ce processus de dialogue, nous avons quand même œuvré, n'est-ce pas, pour que la femme, elle soit assez représentée dans les organes et instances, n'est-ce pas, du dialogue et de la réconciliation nationale.
Alors, une dernière question pour un dernier tour de table. Quel rôle peuvent jouer les femmes dans la perspective d'un accord? Nous posons d'abord la question à Mme Tungara Soufisiko.
Merci bien. Le rôle de la femme est prépondérant dans le processus de dialogue. Comme Mme Dambélé vient de dire, hein, la femme, c'est pour coudre et non pour déchirer. Donc, tout compte fait, quelle que soit la gravité, si la femme est impliquée dans le processus de dialogue, il y aura un impact. Il y aura un impact. Une résolution des Nations Unies, la résolution 1325, qui définit le rôle de la femme dans la prévention, dans la gestion des conflits.
Mm-hmm. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Zanfomba de ONIFAM, mm-hmm. en deux mots.
Oui, bon, pour moi ici, c'est l'occasion de remercier toutes ces femmes qui ont participé depuis Ouaga 1. Aux différents accords qui ont eu lieu jusqu'à l'accord qui a été conclu entre le Mali et qui est le projet de version en date du 25 février 2015. Et cela, quand vous voyez déjà, c'est une touche particulière qui a été mise par rapport avec les femmes dans ces accords-là. Quand vous lisez l'article 46, chapitre 14, par rapport à des termes qui sont là, la non-amnistie pour les auteurs de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'homme, y compris les violences sur les femmes, les filles et les enfants liées au conflit. Quand vous prenez beaucoup d'accords de paix avant, cette disposition n'existait pas. Et c'était des choses qui étaient laissées aux oubliettes. Et c'est là, c'est pour cela qu'on a dit que les femmes payaient les plus lourds tributs. Et après, les questions de paix, les droits des femmes ou les actions faites contre les femmes étaient mis aux oubliettes. Donc c'est...
Alors, Madame Dambélé Oulematousso.
Oui, merci beaucoup. Moi, je dirais pour compléter ça, que la femme ne fait pas la guerre. La femme éteint le feu. Dans une perspective, n'est-ce pas, d'accord, la femme doit travailler à l'apaisement. La femme doit sensibiliser, la femme doit relayer l'information. La femme doit informer et engager le dialogue, n'est-ce pas, communautaire. C'est ça qui doit être notre travail. Mais en amont, nous devrions quand même chercher à mieux comprendre, à nous approprier, n'est-ce pas, le projet d'accord qui vient d'être paraffé tout le dimanche passé à Alger. Nous devrions la comprendre et puis descendre avec à la base parce que nos autorités l'ont paraffé. Et puis, cela ne va pas quand même nous empêcher, n'est-ce pas, de relever quand même les écueils qui peuvent se trouver dedans dans la perspective de les reposer sur la table plus tard. Donc, c'est en ces mots que vraiment, moi, je voulais me prononcer sur
le projet. Alors, un message assez fort, un message sur lequel s'achève cette émission, une émission qui vous a été présentée par Seydou Fomba. Il était donc question des femmes, alors, à l'occasion du 8 mars, qui n'est plus loin. Je rappelle que nous avions trois invités dans ce studio, Zan Fomba de ONIFAM, Madame Dambélé Oulematousso, elle est la présidente de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines FENACOF, et Madame Tungara Sophie Souko, directrice nationale adjointe de la promotion de la femme. Alors, je dois dire que cette émission a pu être, vous est parvenue juste chez vous, c'est grâce à Salim Diora qui était à la mise en onde, et Mamadou Ouattara, Salim Diora qui est plutôt à la régie vidéo, et Mamadou Ouattara à la mise en onde. Ousmane Djadje Traoré a été d'un apport. On ne peut d'ailleurs pas estimer, puisque c'est lui quand même le grand réalisateur de cette émission. Nous nous retrouvons dans 24 heures, disons.
Merci beaucoup.
grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.